J'attends autour de moi Nicolas Fauré. Voilà, Le Dréal de Bassin. Lionel Roucan. Il revient. Ben, je vous ai aussi dans la deuxième. Non, mais comme vous voulez, hein, mais moi je vous ai dans la deuxième, pourquoi pas. Guy Vissac. J'attends Jean Alardi de la IDSA. Lucien Drouot, en père TOS et des associations. Martin Arnoux, du WWF. Jean-Paul Le Doron, de la Fédération donc, nationale de la pêche française. Et Marc-Adrien Marcelier, du NASH. Et Vincent Vauquelin. Oh, ça nous fait beaucoup, ça. Ça va faire une table ronde riche. Tout à l'heure, je me suis laissé entendre dire qu'on était d'une belle connivence, qu'on était dans un jeu d'acteurs, alors qu'on ne s'est pas concerté du tout. Oh, mais il n'y a pas besoin, bien sûr, c'est naturel. On est concerté. Allez, c'est parti. On est parti pour, grosso modo, 45 minutes, 50 minutes. Isabelle Odissier ne sera pas avec nous, a priori, mais elle nous... Voilà, on aura une vidéo, c'est-à-dire qu'elle sera quand même avec nous. Et puis, on a au moins comme ça son temps de parole. Donc, ça nous gagne du temps si on veut appeler les choses comme ça. J'ai un peu honte, hein, Martin. C'est scandaleux. Mais bon, alors, par qui j'attaque au fond? Qui va porter le fer, là, par rapport à ça? Jean-Paul Doron, Martin, quelqu'un de la pêche, forcément, ça ne peut pas être autrement. C'est Jean-Paul, allez, Jean-Paul Doron. Un mot sur tout ça. Ah, deux, non mais deux. Et puis tel que je le connais, c'est plus que ça.
Oui. Bien, écoutez, tout d'abord merci effectivement à Roberto de nous avoir invités. Et je voulais remercier une nouvelle fois au nom des structures associatives que nous représentons. Et donc me féliciter effectivement du niveau de ce colloque. Et, tout en regrettant malgré tout, et je me permets d'adresser ce message un peu personnel, aux acteurs locaux et en particulier aux acteurs, je dirais, qui sont ceux qui doivent nourrir une ambition pour ce territoire, je pense aux acteurs politiques. Je crains, à titre personnel, donc ça n'engage que moi que de le dire, et pas ma fédération nationale, que s'il n'y a pas une volonté politique plus ambitieuse, comme je le rappelais, avec des objectifs, un programme, une contractualisation, j'ai notamment sur l'aspect habitat, je crains que dans 10 ans ou dans 20 ans, nous en soyons encore, hélas, au même point, et ce qu'on ait fait ou pas, ou qu'on ait pris telle ou telle orientation sur le repeuplement. Ceci dit, et ce propos préliminaire ayant été fait, je voudrais vous exprimer d'abord la position de la Fédération nationale, pour éclairer peut-être un peu le débat. Et référence notamment aux premières conclusions donc, de l'étude du poids économique de la pêche associative en France, qui est menée par le bureau d'études BIP. Et qui rappelle, et donc dans le sujet bien évidemment, toute importance donc de l'intérêt économique de la pêche du saumon en France, hein, donc par voie de conséquence, avec un côté multiplicateur bien évidemment sur le plan économique et de l'activité économique des territoires. Et donc aujourd'hui, l'ouverture de la pêche du saumon atlantique donc revêt aussi par ailleurs donc un aspect symbolique pour l'Axe-Loire bien évidemment, mais je dirais, doit poursuivre un objectif fédérateur en prenant le soin, bien évidemment, au préalable, de dissocier le débat sur le repeuplement du débat sur l'ouverture de la pêche. Je pense qu'il faut bien dissocier les deux choses. Il faut éviter de les lier. Et donc, en concertation et dans le respect de la gouvernance donc, qui prévaut à nos structures, à notre réseau associatif, parce que la gouvernance, elle existe au sein de nos réseaux. Elle est sans doute contestable quelquefois, c'est vrai, mais elle existe. Et donc, la Fédération nationale pour la pêche en France s'est exprimée auprès du ministre, il y a eu d'ailleurs un communiqué de presse récent, donc Philippe Martin, en faveur de l'ouverture de la pêche du saumon. Bien évidemment, néanmoins, avec des conditions, et notamment, je dirais, sur des modalités qu'il conviendrait bien évidemment de définir, je dirais, avec les différents acteurs, et pas uniquement les acteurs de la pêche associative. Il s'agit bien, là aussi, d'avoir une réflexion qui emporte l'adhésion des acteurs du territoire, de leur responsabilisation, et pas simplement renvoyer le côté pêche. C'est pour ça que j'ai un peu gêné, moi, de commencer cet atelier, parce que, de fait, on parle de pêche, sans doute, mais je pense que la question de l'ouverture de la pêche n'est pas simplement la question des pêcheurs et des structures associatives. Néanmoins, et nonobstant ce commentaire, nous avons effectivement, nous posons deux conditions préalables à la reprise de la pêche. D'abord, et ça paraît être évident, parce que dans pêche, je suis vice-président de la Fédération nationale pour la pêche en France et la protection des milieux aquatiques, et par ailleurs responsable de la commission eau, protection des milieux aquatiques, biodiversité de cette Fédération nationale, avec un côté un peu écolo, pour ceux qui effectivement voudraient casser l'individu, mais je le suis au mieux écologue et encore moins écologiste. Néanmoins, voilà, on aime bien effectivement mettre les gens dans une case en France. Donc, les modalités, c'est d'abord la définition effectivement d'un objectif en termes de nombre de géniteurs à atteindre, et bien évidemment de géniteurs sauvages. Ça me paraît être un préalable. Et le deuxième, bien évidemment, la définition donc de modalités de reprise de la pêche, donc ayant bien évidemment rempli la première condition sur l'encadrement dans le temps, dans l'espace, des moyens, des modalités, etc. quoi. Évidemment, on ne peut pas se permettre de faire fi de ce débat de fond sur ces modalités d'encadrement de la pêche, hein, et donc de ces conditions de reprise. Voilà ce que je voulais livrer en premier message, et je me réserve bien évidemment le droit de pouvoir, si on m'y autorise, à reprendre la parole dans le débat et dans cette table ronde.
C'est plus qu'une autorisation. Au fond, c'est vrai que je trouvais intéressant au fond que la démarche de la Fédération nationale soit entendue et comprise, la position. Après, effectivement, peut-être qu'avant d'aller solliciter tout de suite le regard de l'État, peut-être que je peux me retourner vers les associations, d'abord de pêche, de la pêche au saumon. Peut-être Jean Alardi, là, qui aurait envie de dire un mot tout de suite, non? C'est peut-être prématuré. Ah oui, il se demande pourquoi il est là. Non, il va nous le dire, quand même.
C'est pas du tout prématuré. Je suis là en tant que représentant d'une association, l'AIDSA. Personnellement, il y a des activités qui me semblent être essentielles à l'équilibre de l'homme. C'est la pêche, la chasse, le jardinage. Des propos qui me semblent être essentiels à retenir, c'est ce qu'a dit le représentant de l'agence de l'eau Loire-Bretagne, il me semble, c'est que on ne doit pas aggraver la situation vis-à-vis des générations futures. Moi, je le dis en plus, ne faisons rien d'irréparable. Actuellement, j'ai l'impression, mais encore des boîtes noires, j'aimerais bien éclairer, que ces objectifs-là sont remplis. On ne fait pas de choses irréparables. Enfin, j'espère qu'on ne fait pas de choses irréparables vis-à-vis des générations futures. Donc, je ne souhaite pas que le saumon, qui n'est pas une espèce menacée, mais que le saumon de l'Allier disparaisse. Je suis plutôt, au niveau de la IDSA, favorable à l'ouverture de la pêche, mais pas à n'importe quel prix. Pourquoi on est là aujourd'hui? Pourquoi on est là depuis 2 jours? Pourquoi certains collègues sont venus de loin pour venir 2 jours? C'est-à-dire, ouvrons les yeux, et on a en France un système de l'organisation de la pêche. Je m'en excuse auprès de Jean-Paul Doron, il n'est peut-être pas d'accord avec moi, mais on se connaît bien et bon, on a une organisation de la pêche pour 30 euros. On va pouvoir pêcher le saumon, les migrateurs, pendant tout le temps que Dieu fait où la pêche est ouverte. C'est un maquis indéfini. Quand on est entouré de collègues qui vont pêcher à l'étranger, 60-70% des pêcheurs de saumon français vont au moins une fois par an pêcher à l'étranger, ils payent de l'ordre de plusieurs centaines d'euros pour pouvoir pêcher sur les rivières, machin, truc, etc. Je suis convaincu que l'on a absolument de belles rivières et qui sont encore peuplées de poissons pêchables, même si ça diminue, et on sait bien pourquoi. Donc, on ouvre la pêche, mais pas à n'importe quel prix et pas avec n'importe quel type d'organisation. Monsieur, comment il s'appelle, Kermarek, a dit qu'ils avaient la chance d'être une seule APPMA sur l'ensemble du bassin des Lorne. Je ne sais pas combien de kilomètres carrés le bassin des Lorne. À la limite, ça n'a pas d'importance. Mais je crois que tant que l'on n'arrivera pas effectivement, pas moi en tous les cas, pêcheurs de saumon, dire avoir un certain nombre de revendications, c'est-à-dire des choses qu'on répète depuis plus de 40 ans, une seule autorité par bassin. On y va, lentement. On a rappelé la loi de 64, donc une agence financière de bassin pour la première fois en 1964. Le bassin hydrographique, chose qui était connue des géographes, qui était connue des écologistes, enfin, des vrais écologistes, pas des politiciens. C'est à ce niveau-là qu'il faut travailler. Le saumon est encore plus complexe quand on regarde ce qu'il représente. Les 3000 km, 4000 km pour venir se reproduire. Quand on voit les publicitaires qui disent ce poisson qui fait 3500 km pour venir dans votre assiette, quand on a écouté l'exposé de notre collègue hier après-midi, c'est écœurant. On voit qu'on ne joue pas dans la même course. On ne joue pas dans la même course. On n'a pas les mêmes moyens. Et donc, il faut arrêter d'avoir d'un côté le club machin, le club truc, l'association d'un tel, etc., etc. Donc, il faut qu'on se fédère. C'est notre objectif. D'arriver à fédérer cette microcosme de bien de chez nous, cocardier, plus que sa tumeur, il faut qu'on en sorte. Et je crois que les moments que nous vivons, c'est-à-dire le consentement minime de la part d'EDF par rapport à son budget, bon, on a ses convictions, mais on n'a plus beaucoup d'illusions, mais l'effacement de Vezin et de La Roche-Pibois, merci monsieur Père Bottenau, Berne, donc les exposés que vous avez faits. Oui, la pêche associative, je ne l'ai pas écarté, j'ai dit que l'autorité de bassin pouvait être effectivement une APPMA. Mais on a, je crois que la leçon à tirer de ce truc, de ce colloque, c'est qu'on ne peut pas gérer un plan d'eau, un égout à ciel ouvert, une belle rivière de deuxième catégorie. Il y en a encore, il en reste encore des belles chez nous. Et des rivières à saumon comme là, il faut des choses différentes. Donc il faut revoir complètement l'organisation de la pêche. Quand je lis dans des comptes rendus d'APPMA, je les reçois, je les lis, donc, et puis que j'entends, je lis les braconniers bien connus. Ah, et puis quand on en parle autour de soi, on dit, mais tu vas pas quand même affronter le sport national. Le braconnage ne doit pas être un sport national, etc. Donc il y a plein de choses. On ne détient pas la vérité, mais on est prêt à en discuter. Il y a plein de choses qu'il faut décliner, qu'il faut regarder. Et quand on en a bien discuté, quand on en a bien, on est d'accord sur les différents points, eh bien, effectivement, on prend une décision et on s'y tient. Jusqu'à la prochaine décision qui arrive dans un an, dans 10 ans, dans 20 ans, etc. Mais voilà dans quel esprit on souhaite travailler. Les problèmes de on n'est plus dans une société rurale, c'est fini. Il suffit de se balader dans notre pays, il se vide. Le Morvan, la Bretagne intérieure, sans doute l'Auvergne, je connais moins bien. On n'est plus un pays rural. Les gamins qu'on interroge sont prêts à faire des centaines de kilomètres, sont prêts à remettre le poisson à l'eau, ils savent pas ce qu'ils font. Mais pour eux, c'est devenu un geste naturel. Et quand j'entends, un peu par provocation, les gens qui font l'amalgame, le no-kill sur le silure et le no-kill sur une espèce comme le saumon, ça me fait, quelque part, ça me fait mal. C'est pas la même chose. Enfin, je crois que tous, autant que l'on est, ce qu'on a voulu dire, c'est que l'attachement à une espèce, l'attachement, comment dirais-je, à un lieu, à un patrimoine, à une région extraordinaire, ça, c'est quelque chose. Il faut se battre pour ça. Il faut que les jeunes viennent se battre avec les vieux que nous sommes.
Merci. Oui, allez-y. Hein. Oui, je pense que l'objectif, c'est de faire de la table ronde quelque chose de très vivant. Donc, dans ma tête, à n'importe quel moment, vous pouvez prendre la parole pour rebondir sur... Oui, tout à fait. Oui.
Très brièvement, puisque Jean Lardy, effectivement, on se connaît. Je pense qu'il faut actualiser les connaissances, parce que d'abord, il faut, effectivement, pour mieux porter un jugement de valeur, entre autres, sur un fonctionnement, voire des dysfonctionnements, il faut effectivement avoir un diagnostic partagé. D'ailleurs, c'est aussi un lettre mot, gérer une base quand on fait de la gestion halieutique ou de la gestion piscicole sur l'identification et caractérisation des unités de gestion. Et là où je me dois d'attirer l'attention de Jean, c'est sur le fait qu'aujourd'hui, il y a certes effectivement donc l'héritage cocardien, franco-français, etc., de la PPMA par rapport au village, mais c'est aussi un territoire. Et quand il y a une APPMA, il y a un territoire, il y a un contact direct avec les propriétaires riverains, et je voudrais rappeler, parce que tu l'as dit hier, et ça me paraît être essentiel, et c'est un point de blocage, parce que on s'est heurté, je ne vais pas rentrer dans les détails techniques, mais on se heurte aujourd'hui à un morcellement des droits de pêche, parce que le droit de pêche est attaché au droit de propriété, et quand vous avez, une gestion halieutique ou piscicole qui est mise en place, elle ne peut être cohérente, malheureusement, que si elle emporte effectivement l'ensemble du bassin ou du sub-bassin. Et on travaille actuellement dans notre réseau sur le regroupement des associations locales, mais néanmoins, on se heurte à cette difficulté fondamentale qui est de dire, de façon, pour gérer, il faut impérativement pouvoir être détenteur du droit de pêche. Or, aujourd'hui, on met en place des plans de gestion. Malheureusement, ils ne sont pas opposables aux tiers. Ça veut dire qu'on peut avoir une gestion patrimoniale, et c'est le cas sur bon nombre de cours d'eau français et de secteurs gérés par le milieu associatif, et se heurter à une gestion halieutique avec des déversements intempestifs, même si on en fait chez nous aussi, il faut le dire. Hein, il ne faut pas se cacher derrière son petit doigt. Et j'assume pleinement mes responsabilités dans le domaine. Là, il y a des fois, malheureusement, il n'y a pas autre chose à faire, hein, compte tenu des conditions de milieu et d'habitat. C'est un peu le même problème que le repeuplement. C'est aussi un pis-aller, hein, c'est pas la solution. On est bien d'accord. Cela étant, s'il n'y a pas de pêche, il n'y a pas d'activité sur les territoires, il n'y a pas de responsabilisation du milieu associatif, et par voie de conséquence, il n'y a pas des acteurs qui sont un petit peu les exiguillons ardents pour porter certains maîtrises d'ouvrage ou porter certaines défenses des milieux. Voilà. Donc, bien rappeler le contexte plus global et transversal de l'organisation de la pêche associative qui est conditionnée par rapport à cet aspect et qui se heurte à un principe fondamental français, hérité de la Révolution, qui est celui du sacro-saint droit de propriété et qui emporte des difficultés pour la pêche, mais aussi sur les ouvrages, etc. Et c'est la problématique d'habitat et de portage de maîtrise d'ouvrage.
Ok. Donc maintenant, on va rester un petit peu sur le même sujet, hein, et puis après je passerai la parole à d'autres, hein, Monsieur Wissac, encore un tout petit peu de patience. Oui, j'espère bien. Moi je voudrais entendre Lucien Drouot, au fond, qui est aussi, oui, si vous pouviez lui passer, voilà, c'est terrible, hein, mais c'est comme ça, lui passer le micro. Moi il faut que je garde absolument le mien, parce que si vous coupez le sifflet, on va être embarrassé. Donc bon, faut pas. Alors à vous. Non, il marche, on va vous redonner du son. Oui.
Bon, je représente l'Association nationale reconnue d'utilité publique de protection des eaux et rivières, TOS, les trois lettres fameuses, truite, ombre, saumon. Et nous sommes très attachés, bien entendu, à la troisième de ces lettres, c'est-à-dire le saumon. Je voudrais, alors que Jean Lardy a été très généraliste, être un peu pointilleux géographiquement. Et je voudrais vous parler du cas d'une rivière qui est l'Adour, affluent de l'Allier, et qui est une rivière à saumon. Cela fait 70 ans que je la connais, j'ai commencé à pêcher à l'âge de 7 ans, ça vous donne donc l'âge de la bête, qui j'espère n'est pas encore prête à aller à l'écarissage. Mais cette rivière, vers les années de guerre, a vu le rehaussement d'un barrage, celui de Sauvia, qui a coupé au saumon le chemin vers les meilleures frayères. Et nous avons vu, dès cette époque-là, une dégringolade considérable, si bien que la Haute Dore n'était plus fréquentée. Malgré, disons, des pollutions, notamment à Vertolaye, Roussel-Uclaf, à Vintiche, etc., quoique, disons, certains progrès soient en route, nous avons revu de nouveau des saumons, et grâce à la réintroduction, justement, d'alevins provenant de la pisciculture. D'abord d'Augerolles, c'est cette pisciculture qui avait été achetée par l'ingénieur principal Bachelier et par l'ingénieur en chef Collin, que j'ai personnellement très bien connu, puis après de Chanteuse. Nous avons eu le grand plaisir, lors d'une année très pluvieuse, avec un bon volume d'eau, de voir sous le pont de l'Irc, c'est-à-dire dans l'arrondissement d'Ambert, 3 saumons d'un mètre sous le pont de la ville. Je peux vous dire que ça a eu un effet assez considérable. Et c'est justement sur... Bon, il y a également, bien sûr, le problème de la Sioule qui a retrouvé, avec des eaux bien meilleures, une population de saumons et qui est un exemple intéressant. C'est donc sur le problème du repeuplement que je voudrais intervenir, et notamment ce problème a été soulevé par plusieurs de nos membres qui souhaitent qu'il soit examiné très sérieusement. Bon, doit-on et peut-on doubler la production de chanteuses, par exemple, d'ici 2015. Dans ce cadre-là, peut-on et doit-on, à Vichy, capturer le nombre de bons géniteurs nécessaires à la production, justement, d'alevins? Il y a un autre petit volet que je voudrais évoquer, c'est finalement le débit de la Loire. La Loire doit avoir un fort débit pour le refroidissement des centrales nucléaires. Or, il est quand même très dommage de voir en Haute-Loire le barrage de Lavalette dériver les eaux sur le bassin du Rhône, qui est un fleuve qui n'a pas bien besoin d'appoint. Voilà, la palette. Voilà. À la limite de l'Ardèche et de la Haute-Loire. Et enfin... pour faire un peu bref, je vous dirais que nous sommes généralement très surpris dans toutes les actions que nous menons de voir que la justice ne nous suit pas. Nous avons eu un dossier d'un braconnage de saumon sur la rivière d'Alagnon il y a très peu de temps, alors que nous avions toutes les preuves, les photographies, les identités. Eh bien, le dossier a été classé sans suite. Nous avons également dernièrement gagné l'annulation d'un arrêté préfectoral pour une microcentrale dans un département du Massif central. Eh bien, le juge nous a donné moins, disons, d'argent que nous en avions dépensé. Ça veut dire que nous faisons quelquefois le travail de l'État, puisque nous mettons le doigt dans des manquements, mais nous le faisons aussi à nos frais, ce qui est quand même bien dommage.
Alors, à ce stade de la discussion, au fond, on a évoqué un tout petit peu l'organisation de la pêche, un peu l'ouverture, la réouverture, sans doute pas assez. Avant de faire parler, le représentant de l'ONEMA, hein, au fond celui qui est le porte-parole des scientifiques presque, ou le DREAL de Bastin, Monsieur Vissac, vous qui militez au fond pour cette réouverture, c'est un vrai projet de territoire. Quelques mots, puis après je demanderai à Martin Arnaud de venir nous dire son sentiment. Alors, qu'en pensez-vous, vous, de cette réouverture, vous qui militez, au fond, pour sur le Haut-Allier, dans tous ceux que je connais, vous n'avez pas d'équivalent. Vous êtes le militant. Non, mais vous portez ce territoire depuis je ne sais combien d'années, et s'il y a bien quelqu'un à qui on ne peut pas opposer, justement, l'action, c'est vous. Hein, je crois que c'est reconnu, j'invente rien. Voilà, le voilier vous doit beaucoup, c'est clair. Alors, c'est une ambition. Quelle ambition pour ce territoire ?
Vous me donnez des qualités qui ne sont pas aussi fortes que celles-là. La réponse va être encore plus difficile à dire. Non, je voudrais me présenter un petit peu à tout le monde. Effectivement, je suis sur le Haut-Allier depuis toujours. Et en représentant ici ce syndicat du Haut-Allier, qui a été créé il y a 30 ans, avec 114 communes quand même adhérentes sur ce syndicat, qui vont des limites du Puy-de-Dôme jusqu'à la Lozère. Et bientôt, nous franchirons la barrière de la Lozère avec le parc naturel régional. Et il y a des membres du syndicat dans la salle, je les vois bien. Je voudrais dire que, au titre du Conseil général aussi, je l'ai dit tout à l'heure, je voudrais dire que, évidemment, je suis très attaché à ce qui se passe sur le territoire. Non seulement pour ce monde, mais pour beaucoup de choses. Et je m'aperçois que ce que nous avons fait, et je voudrais rappeler quand même quelques petites choses. Quand nous sommes allés au ministère de l'Environnement en 1994, accompagnés de personnes qui sont ici, de Jean Prorial, député, il y avait aussi le préfet, les parlementaires de la Haute-Loire, beaucoup de monde, les représentants évidemment de tous les organismes qui étaient là. Quand le ministre nous a confié au syndicat du Haut-Allier la création, la réalisation de la salmoniculture, mon sang n'a fait qu'un tour. Il n'a pas de mal, le tour est vite fait. Mais je veux dire par là que c'était quand même un enjeu terrible. Alors, c'est greffé à partir de là, d'abord l'avis demandé à tous les membres du syndicat, et porter ce projet a été un effort particulier. Je ne suis ni scientifique ni technicien en la matière. Je suis acteur de terrain et témoin de tout ce qui se passe. Nous avons été environnés, et heureusement d'ailleurs, d'un directeur de projet, Patrick Martin, on l'a entendu tout à l'heure, dès le début. Et puis Yvan Turgeon, qui était délégué à la demande du ministère français par le ministère québécois, pour venir reporter sur le Haut-Allier ce qui se passait sur les rivières du Québec. La réussite, c'est qu'en 2001, nous aurions la salmoniculture. Et aujourd'hui, quelques années après, on s'aperçoit quand même des résultats, on les a dit. Alors, ils peuvent être à la fois contestés, scientifiquement opposés, etc. Mais je tiens à dire quelque chose de très fort. Remettre en cause le fonctionnement de la salmoniculture serait porté atteinte gravement à plusieurs facteurs déjà établis. Et ces facteurs établis, c'est l'objectif qui était fixé d'abord par le ministère. Le ministère qui s'était entouré de toutes les expertises nécessaires. Nous n'avons pas atteint l'objectif encore. Donc il faut continuer à avoir un établissement de maternité du saumon sur le Haut-Allier, tant que nous n'avons pas atteint des objectifs prévus. Que le retour naturel du saumon se fasse, j'en suis très conscient, et volontairement, mais ce n'est pas, le temps n'est pas encore écoulé où on en est arrivé là. Donc je demande vraiment avec force, en tant que président du syndicat du Haut-Allier, en tant qu'élu de ce département, que l'on continue à soutenir ce que fait cette salmoniculture avec les éléments nécessaires et les conditions nécessaires pour que tout continue dans ce sens-là de façon à obtenir les objectifs nécessaires. Si on ne le faisait pas, on ignorerait ce qui s'était passé avant qu'existe la salmoniculture et les effectifs très bas, qui étaient déjà annoncés. Je me souviens que quand un des initiateurs de cette salmoniculture, on l'a rappelé d'ailleurs, Jean-Jacques Fauché-Merbrioux de l'a rappelé avant-hier, Louis Hérault, qui avait été maire de cette commune et conseiller général et même député, est venu nous trouver en présence de Jean Prorio. Nous étions ensemble pour nous dire il faut absolument que l'on vous confie cette salmoniculture. Alors tout ça, ce sont des éléments de l'histoire, mais qui importent très fortement et qui impactent très fortement les décisions qui sont prises aujourd'hui. Et il y a quelque chose que je veux dire avec également très grand sérieux, c'est qu'il y a eu beaucoup d'efforts financiers de tout le monde, de la part de l'État, l'agence de l'eau, l'EPL, tout le monde a mis la main à la poche. Tout le monde met la main à la poche. Et si ce qui se passerait, si on ne soutenait pas les effectifs, et si on arrivait de nouveau à des effectifs limites, tout tous ces efforts financiers tomberaient à l'eau, c'est le cas de le dire. Et là, ça serait vraiment de la part de la population un retour en force aussi, de reproches qui seraient faits dans ce sens-là. À quoi a servi l'argent? Pourquoi l'a-t-on dépensé ici et ça n'existe plus? Donc, je trouve que là, je voudrais attirer l'attention là-dessus, parce que ça me semble très important. Je parlais tout à l'heure, et merci des réponses qui m'ont été faites, en partie. Je suis satisfait de certaines réponses, pas de toutes, tout à l'heure, quand je parlais à la fois du débit et de la qualité. Les débits, tout à l'heure nous avons discuté un petit peu plus longtemps avec M. Hudd, le directeur de l'EPL, les débits sont du barrage de Naussac, excusez-moi, les débits du barrage de Naussac sont des débits qu'il faut contrôler, certes, mais revoir. Pour ma part, il faut les revoir, car ils impactent cette rivière. Cet été, et j'habite juste au bord de l'Allier, cet été, il y avait vraiment des étiages qui étaient limites, même très limites. Et Naussac a été fait pour soutenir les étiages. Donc tous les étiages, et vous me l'avez dit tout à l'heure, M. Hudd, avec tous les usages de l'eau. Donc je crois que ça, il faut aussi qu'on en prenne compte, mais on a dit qu'on se verrait, qu'on prendrait rendez-vous, ça ira très bien. Sur la qualité, je suis un petit peu désolé, monsieur le directeur de l'agence de l'eau, je suis un peu désolé, mais j'y reviens sur la qualité de l'eau. Quand on fait le diagnostic du SAGE, on s'aperçoit qu'on est très loin encore de la qualité des eaux pour pouvoir aborder une qualité qui permette aux poissons, aux saumons, mais à tous les poissons aussi, de vivre dans cette rivière et d'avoir un attrait économique. On va parler de l'économie tout à l'heure. Il manque de la qualité. Alors, les collectivités ont fait des efforts. Des communes de petite taille, je pense à Prades en particulier, ont investi d'une façon extraordinaire. 68 habitants à Prades, avec un projet de je ne sais plus combien de millions, c'est extraordinaire. Mais l'agence de l'eau a participé. Je ne fais pas procès à l'agence de l'eau en disant ça, au contraire. Je suis très content de l'intervention de l'agence de l'eau, qui dans une convention avec le conseil général, a pu faire face aussi à cela. Mais il n'y a pas que les pollutions, désormais, des collectivités, il y a d'autres pollutions. Alors, bien sûr, on peut envoyer toutes les polices qu'on voudra. Je vous rejoins un peu tout ce que vous disiez tout à l'heure. Quand vous dites la justice n'est pas intervenue, nous sommes désolés, mais il y a des fois où il faudrait que la police de l'eau intervienne plus fortement sur des excès qu'il y a. Donc je ne cherche pas à être gendarme plus que je dois l'être, mais il y a quand même un problème comme ça. Et je voudrais justement qu'on puisse en parler avec l'agence de l'eau, qui est un organisme qui nous aide énormément. Je voulais dire cela au départ de mon intervention, mais je reviendrai peut-être sur la partie économique tout à l'heure, puisque en fait, si on veut ouvrir... Ah bon. Mais là, je rejoindrai facilement Lionel Rouquin, qui est à mes côtés, parce qu'on a le projet de parc, il en parlera encore tout à l'heure, naturel. Pourquoi ? Ce territoire du Haut-Allier est un territoire qui n'est pas ni urbain, ni proche de l'urbain. Et que nous avons besoin d'avoir un projet très fort avec les richesses que nous possédons. J'étais ce matin dans une réunion à propos d'une usine. Cette usine va rester, va pas rester. Si l'usine s'en va, c'est une catastrophe. Une seule usine. C'est la catastrophe dans le Haut-Allier. Donc, il faut que nous nous mobilisions pour avoir toutes les retombées nécessaires pour que vive ce territoire. Alors, nous cherchons, évidemment, tous les axes nécessaires. Nous en avons. Il n'est pas sans richesse, ce territoire. Il a beaucoup de richesses. Donc, nous recherchons les richesses. L'Allier est l'axe majeur de ce développement. Donc, nous tenons beaucoup à l'ouverture à nouveau de la pêche au saumon, avec des nouvelles conditions réglementées comme il faudra les réglementer, évidemment. Il faudra prouver tout ça. Mais nous souhaitons beaucoup qu'il y ait ce caractère rivière. Je parle de l'Allier, mais les affluents sont importants aussi. Les affluents sont très importants. Il y a la pêche au saumon, il y a d'autres pêches qui peuvent se développer, mais je souhaite beaucoup qu'on puisse faire cette ouverture, ne serait-ce que pour valoriser la richesse historique de cette rivière et appeler l'attention de la population qui doit s'approprier aussi ce problème. On ne le dit pas assez souvent, la population doit s'approprier ce qui existe, ce qui a existé, ce qui peut exister. C'est un enjeu très difficile à tenir, mais nous sommes là et pour essayer de le conforter. Voilà, je voulais dire cela, peut-être je reviendrai tout à l'heure, si vous me redonnez la parole.
Non, mais forcément, hein, vous êtes très nombreux autour de ce tour de table. Donc,
oui, j'entends
si
bien.
On veut que tout le monde s'exprime, il faut, voilà, je ne peux pas vous... Mais on va y revenir, autant qu'on pourra, on va y revenir. Non, je voudrais peut-être, si Lionel Roucan, au fond, qui est l'homme du territoire, qu'on a déjà entendu sur le sujet quelques instants tout à l'heure, est-ce qu'il a un ajout, est-ce qu'il a envie de rebondir encore sur quelque chose?
Oui, non, mais je peux très bien conforter ce que vient de dire Guy Vissac, mais je ne suis pas l'homme du territoire, je suis que le porte-plume du territoire. J'écris ce que voilà, je mets en forme ce que le territoire me dit et j'essaie de le faire. Mais à travers cette réouverture de la pêche au saumon, nous on est dans notre rôle justement de continuité de ce travail qu'a fait le SMAT dans le parc. C'est-à-dire que il faut et on demande et c'est logique pour avoir un label national qui est celui du parc qui est donné par l'interministériel. C'est pas rien, ça va engager quand même beaucoup de choses. Hein. Les choses qu'on écrit dans la charte, elles auront cette valeur-là. Faut pas l'oublier, elles auront la valeur d'avoir été passées par le crible de tous les ministères et d'être signées. Et d'être acceptées. C'est pas un label n'importe comme ça qui se donne n'importe comment. Donc, pour conforter ce travail, on nous demande un travail de cohésion et de reconnaissance du territoire. Alors, comme on l'a vécu avec Guy Vissac depuis 2 ans, eh bien, on arpente le territoire et on demande aux gens, aux personnes, à tout le monde qui viennent à nos réunions, de nous dire ce qu'est leur territoire. Il ressort beaucoup de choses, hein. Il ressort le Cévenol, il ressort les paysages, il ressort l'agriculture, il ressort les produits locaux, et il ressort l'Allier. Mais pas tant que ça. Moi, je pensais que l'Allier faisait vraiment une colonne vertébrale très forte de ce territoire-là. Et aujourd'hui, moi, je pense qu'il y a un déficit là-dessus. Et on fait ce constat-là, un peu, à l'association, qu'il y a un déficit d'image qui n'est pas encore fait. Qui connaît le Haut-Allier aujourd'hui? Et quand les rapporteurs du ministère et de l'État viennent nous voir, ils nous disent « c'est du niveau des gorges du Verdon, c'est du niveau des gorges du Tarn ». Eh ben oui, mais pas dans la notoriété. Or, je pense que l'ouverture de la pêche au saumon, et je suis d'accord tout à fait avec les intervenants qui ont eu la parole avant moi, faut pas la faire n'importe comment et n'importe où. Et n'importe quoi. C'est pas un gadget. Mais ça peut être une image de territoire, un marqueur très fort, en disant ce territoire, ben, il va vers ce but-là, il va dans ce but, il va dans cette voie-là, parce qu'il veut réaliser et un progrès environnemental, parce que ce sera un progrès environnemental s'il y a l'ouverture de la pêche. Si la rivière, si la population des saumons est dans la capacité de donner aux hommes la possibilité de rouvrir. C'est dans ce sens-là, je pense qu'il faut le voir. Ça sera un progrès économique, Guy Vissac vient de souligner, mais évidemment, c'est un support d'image très, très porteur, très intéressant. Et on mise aussi là-dessus. Et puis, c'est un progrès aussi social. C'est un progrès social qui permet, effectivement, à des populations de se réapproprier leur territoire, d'en vivre, de le partager avec d'autres, et de le faire valoir. C'est pas rien, tout ça. C'est pas rien. Là-dessus, on a besoin de tous nos partenaires. Moi, je souhaite que le futur parc soit aussi cette espèce de plateforme de concertation, d'échange et de partenariat qui doit être sur un territoire, qui doit démultiplier l'action du territoire, la faire voir de plus en plus, la faire partager de plus en plus, en interne, parce qu'elle a besoin. Je vous disais tout à l'heure, on rigolait un peu, on plaisantait un peu sur les zones peu denses. Vous savez que sur 88 communes, il n'y a que 30 000 habitants. C'est quand même pas rien vis-à-vis aujourd'hui où on crée des métropoles qui feront 500 000 habitants. Comment des pays comme cela, des espaces comme cela, réagiront? Moi, je pense qu'ils réagiront avec leur force propre. Leur force propre aujourd'hui, ben, c'est l'Allier. Et il faut que cette conscience de l'Allier monte, s'exaspère. Que le saumon en soit l'emblème, très bien. Que la réouverture soit l'étoile lointaine, etc. Mais on accrochera notre charrette aux étoiles. Et puis, il faut qu'on ait des discussions. Et moi, j'ai très bien entendu, tout à l'heure, dans l'intervention de M. Doron, dans l'idée de ce repeuplement, moi, voilà. Là, on a une discussion à avoir, peut-être entre écologues et écologistes, je sais pas, en tous les cas, moi je suis ingénieur agri, voilà, on fera en sorte de se comprendre, mais on a ce souci de l'habitat et du repeuplement. Oui, c'est ce problème à deux têtes que l'on a. Mais il y a une tête qui est extrêmement dure. Moi, la tête de l'habitat, pour être aussi dans des instances, des commissions de bassin, etc., et des agences de l'eau, de l'autre côté, à Dour-Garonne, remettre l'habitat ou rénover l'habitat, c'est de la longue haleine, quoi. Et on a parlé de tout, sauf de ce qui fâche, hein, l'agriculture. Voilà. Je veux dire, s'il y a des nitrates et du phosphate dans l'eau, c'est pas que parce que la ménagère utilise de la lessive, quoi. Faut pas non plus, voilà. Et là-dessus, on a un problème, mais à long terme. Et je pense que tout ce qu'on fait là sensibilise aussi la profession. Cette profession, qui a tant besoin de reconnaissance aujourd'hui, elle devrait s'emparer plus de ça, elle porter plus de ça. On est là pour ça, on est là pour les aider. Et ça se sent déjà dans l'écriture de la charte, Lissac peut en témoigner, ça se sent, il faut qu'on prenne ce problème-là. Mais c'est un problème de tête dure, de tête de béton. Et je pense que le repeuplement, pendant un certain temps, et ça c'est à discuter avec vous, professionnels de la pêche, ou sachant sur le poisson, un peu quand même, plus que moi en tous les cas, sur les populations et les frayères, mais c'est aussi la reconnaissance du fait que le parc doit améliorer sa connaissance, là-dessus, et avec vous, avec l'agence de l'eau aujourd'hui, on doit arriver à cette espèce de communication interne là, qui nous permet d'avoir cet objectif-là. Voilà, je vais m'arrêter là, mais on le développera autant que vous voudrez.
C'est bien, mais c'est bien, c'est important que vous fassiez cet ajout, parce que ça aide à la compréhension aussi des problèmes, et puis vous mettez aussi le doigt sur des sujets qui n'ont pas été abordés, mais qu'on connaît bien. C'est vrai que, moi le premier, quand je circule sur le territoire maintenant du Haut-Allier, je vois bien qu'effectivement les modes de culture ont trop de change. Donc forcément, ça impacte le milieu, c'est clair. Donc, c'est pas facile à résoudre, on est bien d'accord. Je le vois, moi, régulièrement au comité de bassin. Bien que, voilà, on n'est pas maître du jeu. Les politiques agricoles, elles ne se décident pas au comité de bassin. Sinon, ça serait encore plus simple. Mais on n'en est pas là. Alors, je vais en venir à Martin Arnoux, forcément, ce qui est normal. Hein, on laissera nos amis scientifiques et État, non pas clore le débat, s'exprimer pour qu'on puisse après revenir peut-être sur le sujet. J'entends bien. Martin, toi, ça fait très longtemps aussi que tu milites pour ce saumon. Alors, quelle est cette position, le WWF, avant qu'on entende Isabelle Autissier nous apporter au fond un certain nombre de conclusions. T'es aussi altiligérien, hein, il y a deux cœurs. Donc, quel sentiment, quel regard tu portes sur les choses et sur l'action et sur cette ambition pour l'avenir?
Vaste question. D'abord, je me sens comme un poisson dans l'eau, un saumon dans l'eau, dans ce deuxième colloque des saumons et des hommes, parce que je trouve que en 20 ans, nous avons accompli collectivement, et je ne veux évidemment oublier personne, collectivement, tous, des progrès absolument considérables en matière de gestion de la complexité et de la difficulté culturel, au sens le plus fort du terme, nos comportements, notre histoire, la difficulté à traiter d'un sujet aussi compliqué que le saumon de l'Allier, parce que je crois qu'on a pas le saumon de l'Allier ou le saumon en général, les migrateurs en général, je crois qu'on a bien compris avec les interventions d'hier et d'aujourd'hui, qu'on est quand même tous face à un défi qui nous dépasse un peu. Et donc pouvoir sereinement mettre sur la table les problèmes comme nous le faisons là, et malheureusement, tous les problèmes sont extraordinairement compliqués. Moi, je ne suis pas vraiment compétent pour parler de l'ouverture de l'économie de la pêche, je ne suis pas pêcheur, mais je sais à quel point ça pose le problème des structures, ça pose le problème des modèles. C'est la même chose pour nous, associations de conservation de la nature. Quand on parle de notre rôle pour accompagner les politiques publiques, on doit remettre en cause un certain modèle d'association de protection de la nature. Quand on parle de hôtesse d'EDF, et ça me fait évidemment extrêmement plaisir de voir que les représentants d'EDF avec lesquels on s'est quand même sévèrement accroché pendant quelques années, se disent oui, il faut qu'on essaye d'inventer quelque chose d'autre pour la gestion de au moins de cet ouvrage, la future gestion du nouveau hôtesse. quand on aborde, Lionel, la question de l'agriculture, je crois qu'entre nous, on ne va pas parler longtemps de la difficulté à faire en sorte qu'on fasse comprendre qu'il ne s'agit pas d'une guerre de religion entre écologistes et agriculteurs, mais bien d'un accompagnement, d'un modèle nouveau qui est loin de l'héritage glorieux de la PAC, M. Pisani, 1962, etc. On n'en est plus là. Le monde a changé. Et tous les défis que nous avons devant nous, ils sont quand même très impressionnants. Et pour l'anecdote, entendre Guy Vissac dire « il va falloir revoir les débits d'étiage de nos sacs », je trouve que c'est très, très, très intéressant, parce qu'on peut aborder maintenant des questions comme celle-là, qui n'était pas possible d'aborder il y a 20 ans, si on prend le colloque le premier colloque qu'on avait organisé ici. Il est possible maintenant de les aborder avec un établissement public Loire qui sait que ces questions-là sont importantes. Quand je déjeune à midi avec M. Fauché ou avec M. Proriol, avec lesquels nous avons été souvent en désaccord et que nous pouvons échanger autour justement des défis qui sont devant nous, je me dis qu'on a progressé. Donc ça, je crois que on peut être fier d'être sur un territoire. Tu disais qu'il n'est pas connu, c'est une évidence. Hein. Tu comparais ça aux Gorges du Verdon, du Tarn. Moi, je me rappelle des équipes du ministère de l'écologie au moment de prendre la décision sur Serre de la Fare qui ont découvert les Gorges du Voilier, qui disaient « Michel Barnier, c'est un des plus beaux paysages de France. On souffre très clairement en Haute-Loire d'un déficit d'image et de fierté par rapport au capital nature et biodiversité que nous avons, que il faut surmonter, parce que ce département, en termes de qualité de paysage et de la biodiversité, est totalement extraordinaire. Donc le projet de PNR, bravo, 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 quoi, un projet de territoire qui émerge comme ça. Alors, pour finir sur l'innovation, il y a 20 ans, et je sais que c'était un sacré sacrifice pour les pêcheurs, je vois avec plaisir mon ami Gladel, qui a fait une intervention tout à l'heure, accepter à l'époque l'interdiction de la pêche, c'était quand même douloureux. On a passé 20 ans, on a progressé, et du point de vue d'une ONG comme la nôtre, hein, qui est une ONG internationale, qui n'a pas beaucoup d'ancrage local, mais l'ancrage local, c'est le formidable travail que fait SOS Terre Vivante, dire que maintenant, on va innover à nouveau, et on va repenser l'ouverture de la pêche. Évidemment, nous, on y est complètement favorable, parce que la pêche, ça crée de la valeur. Le saumon, ce n'est pas juste un pur objet de conservation de la nature, c'est aussi un objet qui a nourri les hommes, c'est aussi un poisson qui peut enrichir un territoire, qui peut générer des retombées socio-économiques. Donc, il faut la penser, cette ouverture de la pêche, cette réouverture, mais évidemment, il faut la faire de manière exemplaire. Moi, j'aime beaucoup les termes de Patrick. Il faut que sur la qualité de l'eau, on soit dans l'excellence. Il faut qu'on soit exemplaire. Cette ouverture, quand elle se fera, parce qu'il va falloir beaucoup de temps, il faut évidemment qu'elle soit dans ce registre-là. Voilà bon. Ce que je peux dire.
C'est une belle perche tendue ou une belle transition, au fond. Donc, avant de me retourner vers le Dréal, hein, au fond, encore une fois, je lui laisse pas le dernier mot. Hein. Je vais lui donner l'occasion de s'exprimer en dernier, mais je ne lui laisse pas le dernier mot. Là, je demandais à Simon Vauquelin, il l'a abordé ce matin, est-ce qu'il redit un mot pour nous dire, pour que ça soit entendu? On va considérer que ça n'a pas été entendu ce matin. Alors, quelle est la ressource? Quelles sont les limites? Qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à cette table ronde? C'est-à-dire que la question est posée. Alors, quelle réponse quelqu'un de l'ONEMA peut apporter à ça?
Oui, j'ai bien vu qu'il y a eu des réponses plus larges que celle à la question posée, première, qui est « Est-ce qu'on peut réouvrir la pêche ?» On a une deuxième, mais sur la deuxième, moi, je ne répondrai pas. Il y a des pays qui sont plus avancés que nous et qui ont plus de saumon que nous. Et il y a une règle générale qui est établie pour autoriser dans ces pays, partout dans le monde en fait, le fait de pêcher ou pas, c'est de dépasser ce qu'ils appellent la limite de conservation. Alors la limite de conservation, ce n'est pas le seuil d'extinction, ce n'est pas la limite en dessous de laquelle la population s'effondre. C'est quelque chose qui est bien au-dessus, qui est très protecteur par rapport au seuil d'extinction. Voilà. Alors, la difficulté dans l'Allier, c'est que les conditions écologiques telles qu'on les évalue actuellement et l'état de la population, elle est très loin, très en dessous de la limite de conservation. En fait, elle est sans doute un petit peu en dessous de la droite de remplacement. Un géniteur génère à la génération suivante un autre géniteur, c'est-à-dire le statu quo, la stabilité peut-être à un niveau bas, mais la stabilité de la population. Donc de ce point de vue, et au regard des recommandations internationales de gestion de la pêche, de gestion responsable, qui vaut à la fois pour la pêche du saumon et pour toutes les pêches marines, hein, sur une centaine de stocks dans le monde, on n'est pas visiblement dans ces conditions, à moins que d'autres éléments nous démontrent le contraire, mais le modèle de viabilité de population de l'INRA tend à montrer que, hélas, on est dans une zone de danger. Donc voilà, ça c'est pour l'immédiateté. Après, voir si les choses s'améliorent et réfléchir à des conditions d'exploitation raisonnées dans le respect de cette règle d'exploitation qui est internationale, j'imagine, mais c'est pas à moi, établissement public qui conseille l'État au niveau technique et scientifique, c'est pas à moi d'en décider, mais je suppose que c'est de l'ordre du possible. Je pense que d'autres personnes diront où ça en est à ce niveau-là. Je voulais revenir sur un autre point, puisque les gens ont un petit peu débordé également sur la gestion plus large, et pas uniquement le fait de rouvrir la pêche ou pas. Il est important de voir dans ces histoires de gestion entre le milieu et la pratique des repeuplements, qu'il y a quand même des éléments qui sont sortis dans l'étude de viabilité de l'INRA. Donc, il y a eu un exposé à l'atelier 2 hier, seulement une partie d'entre vous y était, mais il y a un rapport qui est sorti donc en début d'année 2013. Il est disponible, il est en anglais, mais surtout de ce rapport, il y a un résumé opératoire qui fait 5 pages, qui a été écrit pour un public large, pour être bien compris, pour englober le sujet et pour se suffire à lui-même. C'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé, après cette lecture-là, d'aller dans le rapport lui-même avec les figures. Vous pouvez. Moi, je demande et je propose à SOS Loire Vivante que, un, le résumé opératoire, qui répondra à pas mal de questions ou affirmations parfois erronées qui ont été émises, et deux, le rapport lui-même, soit mis sur le site de SOS Loire Vivante pour que les gens que ça intéresse puissent se faire leur propre opinion. Ça me paraît assez fondamental. Et puis, juste conclusion globale par rapport notamment à l'exposé qu'on n'a pas tout à fait terminé hier matin, il y a une idée quand même que si la population de saumon est en difficulté d'une manière générale, pour différentes raisons, avant de faire le bien, ce qu'on a envie de faire, il faut éviter de faire le mal. C'est-à-dire qu'il ne faut pas rajouter de pression. Les pressions sont environnementales, elles peuvent être plus directement causées par l'homme. Donc beaucoup de circonspection à ce niveau-là, beaucoup de prudence et de sagesse, parce que il y a quand même une chance qu'on a, c'est, on l'a vu, un, la population est demeurée génétiquement intacte, modulo la finesse des analyses qu'on est capable de faire, mais la technique en matière génétique est bonne a priori. Donc on a encore la même population en termes génétiques que dans les années 70, c'est rassurant. Et deuxio, il reste encore donc une population sauvage naturelle, à côté d'une population issue de déversement, et donc on n'est pas dans de la réintroduction à partir de zéro, on n'a pas perdu la population, il s'agit de la maintenir. C'est déjà une chance, parce que réintroduire à partir de zéro, c'est très dur, et il y a des projets de réintroduction partout en France, et surtout dans le monde, et même aux États-Unis avec de très gros moyens de déversement de centaines de milliers de millions de smolts, qui ne marchent pas, ils n'y sont pas arrivés avec des moyens plus considérables que les nôtres. Donc prudence, il vaut mieux tenir que courir.
Merci. Merci. Alors, Nicolas Fauré, oui, hein, je l'annonce, donc il n'y a pas de raison.
Vous posiez une question à cet atelier, faut-il réouvrir la pêche? Je voudrais répondre, mais quel est le rôle de l'État? Parce que c'est vrai que, d'un certain point de vue, tout le monde se tourne, et qu'est-ce que va dire l'État d'ailleurs? Tout le monde sera prêt à les critiquer, parce que la réponse qu'il aura apportée sera pas celle attendue de tous, ou de certains parmi tous. Le rôle de l'État, c'est d'abord d'être l'émanation du corps social. L'État, c'est pas un être immanent, c'est pas le bon Dieu. L'État, il essaye, à partir de ce qui est scientifiquement et techniquement possible, scientifiquement et techniquement souhaitable, politiquement jouable, de prendre une décision qui soit si possible une décision de moyen ou de long terme. Quand j'ai dit tout ça, je ne sais pas si vous avez mesuré, c'est pas marrant d'être l'État. Parce que vous avez des tas de lobbies de court terme qui vous expliquent la meilleure décision qui est à apprendre selon chacun des points de vue. Et effectivement, c'est contradictoire et chacun amène ses bonnes raisons. Donc, c'est un boulot de punching ball incompétent, par définition, mais qui essaye quand même de faire son boulot. Alors, face à la question, j'ai tendance à dire, il y a une réponse évidente. Oui, c'est l'objectif à atteindre. C'est l'ambition à avoir. J'ai noté qu'il n'y a aucun écart sur cette ligne autour de nous. Maintenant, c'est
Est-ce que les conditions nécessaires sont réunies aujourd'hui? La réponse n'a pas été faite clairement, mais toutes les conditions qui ont été évoquées, qui n'ont jamais été précisées par les différents intervenants, montrent qu'il y a un vrai embarras pour dire franchement, mais moi je vais le dire à votre place, non, les conditions ne sont pas réunies aujourd'hui et pour 6 ans pour ouvrir la pêche au saumon dans l'Allier. Maintenant, est-ce qu'on doit renoncer à l'ambition? Ma réponse, c'est je n'ai pas du tout envie de renoncer. Alors, j'ai donné une réponse à 6 ans. Pourquoi 6 ans? Parce que la durée du plan, franchement, je pense qu'on a besoin de ce temps-là. Quels sont, sur quoi devons-nous travailler? On ne fait pas rien pendant ces 6 ans. On a à réfléchir sur le niveau de viabilité de cette population. Il faut qu'on se mette d'accord, il faut qu'on s'approprie le travail des scientifiques. On a un super boulot à faire sur l'amélioration des habitats. On a un espoir, j'espère qu'on aura ce nombre d'ambitions, je le dirai si on me laisse donner ma vision de la fin de séminaire tout à l'heure. On a une deuxième question qui sera, si on la rouvre, comment on la rouvre-t-on? Où? Pour quel pêcheur? Comment, techniquement? Pourquoi? En attendant, parce que moi je comprends les pêcheurs au saumon qui sont frustrés, qui sont doublement frustrés, parce que d'un certain point de vue, ils aimeraient bien en repêcher, et 20 ans d'attente, plus 6, 26 ans, c'est épouvantable. D'un autre côté, ils sont réalistes, ils savent qu'il n'y en a pas assez, et que s'ils le pêchent, même si c'est en no-kill, vu l'état de la population, c'est prendre un risque. Donc, ils sont eux-mêmes dans cette schizophrénie, et moi je vous ai dit que l'homme était schizophrène, hein. Je suis schizo complètement. Je me soigne, j'en suis conscient, je me psychanalyse tous les soirs devant ma glace, mais c'est pas le matin. J'ai pas l'intention d'être président de la République. Hein. Mais, donc, il faut qu'on bosse sur cette question, parce qu'elle est compliquée, contrairement aux apparences. Il faudra pas que, quand on la prendra, elle se fasse pas sans un minimum de consensus. Donc, j'ai tendance à dire, il faut que l'on bosse, et que l'on bosse pas seulement la Haute-Loire. Hein. Je vous ai dit ce que j'en pensais tout à l'heure. Donc voilà, moi, ce que je voulais dire. Il me semble que, du point de vue de l'État, dans un objectif de moyen-long terme, c'est la seule position, je dirais, explicable et défendable avec tous, tout en disant que c'est une décision frustrante, parce que pour l'instant, en 20 ans, on a fait des progrès, mais on n'a pas atteint notre résultat.
Merci. Alors, on va prendre 2-3 questions dans la salle, au moins 1, 2, oui, il y en a 10, hein, mais voilà. On y va? Allez, on commence par Philippe Boineau. Vas-y. Oui.
Donc, je suis Philippe Boineau, donc je représente ici les pêcheurs professionnels en eau douce du bassin de la Loire et puis nationaux. Juste pour me présenter par rapport à ceux qui ne me connaissent pas, bon, je suis pêcheur professionnel actuellement. J'étais dans les derniers pêcheurs français autorisés à pêcher le saumon avec quota jusqu'en 93. Donc moi-même, j'ai pratiqué le saumon, pas juste le saumon filet barrage. Donc c'est une espèce que je ne connais pas. Mais par ailleurs, j'ai aussi une formation de scientifique et j'ai des compétences en écologie, biologie et génétique des populations, ce qui me permet d'appréhender assez globalement la situation complexe de cette population.
Mais va au fait, le plus possible.
Alors effectivement, nos positions sur les grands débats. D'abord, j'ai des positions avancées sur 2 points. Bon, j'attends un peu que M. Forêt finisse de discuter parce que je vais quelque part répondre à une de ses interpellations de ce matin. Simplement pour vous dire que nous sommes conscients qu'il y a nécessité de réappropriation des enjeux saumon sur l'Allier, mais au-delà jusqu'à l'estuaire de la Loire. Bon, ici nous sommes en Haute-Loire, nous sommes très conscients de la nécessité absolue qu'il y ait une réappropriation de la rivière et de ce fabuleux poisson, le saumon, par les populations locales, les pêcheurs, les élus surtout, toutes les structures syndicales et autres qui ont en charge de mener à bien la restauration des habitats, parce que sans cette réappropriation collective, la restauration de l'habitat, de la continuité écologique, pour laquelle je me bats moi-même au sein du comité de bassin aux côtés de certains nombre d'acteurs ici présents, ils le savent, je crois que malheureusement on n'y arrivera pas. Si le coq s'appelle des saumons et des hommes, c'est bien parce que malheureusement les deux sont intimement liés. D'accord. Donc dans ce cadre-là, à partir de ces enjeux, je crois qu'on est en situation de gestion de risque et que par rapport à, aux deux problématiques, repeuplement, soutien de population et réouverture potentielle de la pêche, là, on a une situation de gestion de risque. Sur l'aspect soutien de population, effectivement, il y a des risques, mais il me semble assez minoré compte tenu du retour d'expérience qu'on a depuis qu'il y a Augerolles et puis Chanteuse. Le risque de dérive génétique à partir de poissons de repeuplement de première génération me semble assez limité. Et c'est pourquoi je soutiendrai, parce que c'est aussi une volonté politique au départ du plan Loire, je soutiens l'hypothèse haute en soutien de population par le stade Alvin proposé par Patrick Martin. Je crois que c'est une nécessaire cohérence sur le long terme des objectifs qu'on s'est assignés, comme d'un objectif chiffré de 1600-1700 poissons. C'est le premier point. Deuxième point, sur la réouverture potentielle de la pêche. Là, je rassure M. Forel-Dral, le bassin. Nous sommes très conscients de la situation critique, toujours de la population, et en aucune manière, la pêche professionnelle en eau douce, en estuaire, ne revendique pour elle une ouverture de la pêche, pour l'instant, compte tenu de l'état de la population. Par contre, compte tenu des enjeux de réappropriation de l'enjeu saumon sur l'Allier et le Haut-Allier notamment, nous sommes tout à fait en mesure de soutenir la demande des acteurs locaux d'expérimenter une forme de rouverture de la pêche. Alors, je vais être plus précis, il ne s'agit pas de rouvrir la pêche comme elle était il y a 20 ans, simplement d'expérimenter des nouveaux modes de gestion par la pêche, d'éventuellement autoriser, peut-être avant 6 ans, parce que 6 ans, ça risque d'être trop long, 26 ans, non, c'est vraiment... ça risque d'épuiser beaucoup d'acteurs, peut-être dans 3 ans, le temps d'expérimenter, de discuter des modalités pratiques, techniques, pointues, avec des suivis scientifiques, mais un mode de rouverture où quelques saumons sont utilisés à la pêche, avec pêche à la mouche, hameçon simple, sans ardillon, grassation obligatoire, dans des conditions thermiques bien particulières, sur des secteurs bien particuliers, accompagnés de garde-guides, etc. Voilà, où on réexpérimente, on recommence à intéresser les populations locales à une nouvelle forme de gestion pour que cette ressource recommence à créer du social et de l'économie autour de la rivière.
Message voilà. Compris.
Donc, mais vous avez notre soutien.
Message compris, tu vas empêcher les autres de s'exprimer. Et là,
juste là-dessus.
Allez, on en finit. Très vite.
Nous, on est prêts à vous accompagner en mettant nos savoir-faire particuliers pour réguler d'autres problèmes qui sont en train d'apparaître. Par exemple, c'est les nouveaux prédateurs comme le silure, pour maximiser les remontées de saumon, permettre une amélioration du taux de survie des gîteurs entre l'estuaire et le Haut-Allier. Voilà.
Merci. On n'apporte pas de réponse particulière parmi les intervenants? Non. Alors on continue.
J'ai deux.
Jean-Paul Doron, oui.
Excusez-moi, je ne voulais pas embelliser le content de parler des autres, mais simplement je voudrais, féliciter la pêche professionnelle et le courage affiché par cette décision de ne pas effectivement demander spécifique pour leur activité, qui, je sais, par ailleurs, est en grande difficulté. Grande difficulté, faut-il le rappeler, par rapport aux conditions d'habitat, hein, parce que s'il n'y a pas de poissons à pêcher, c'est malheureusement parce que les habitats sont dégradés. Et je pense qu'il y a, il doit y avoir, je le redis, une volonté politique très claire, affichée, avec des objectifs sur ce bassin, et partagée.
C'est bien, je suis heureux hein, de cette réponse, parce que c'est vrai, je suis obligé de couper Philippe Boineau quelque part, mais voilà, point. Patrick.
Deux questions rapides au pilote. Alors peut-être pas le pilote de l'avion, parce qu'on n'a pas encore eu la réponse, mais en tout cas au pilote du plan. La première, c'est dans une période difficile aujourd'hui, où on essaie de justifier des fonds pour être le plus innovant possible, puisque ce sont des fonds européens qui nous aident. Un rappel sur l'historique de notre projet, quand on a construit l'établissement du conservatoire, on a été chercher dans des périodes difficiles où les fonds venaient et partaient, des fonds qui étaient destinés à un établissement structurant pour le développement du tourisme et du tourisme pêche. Est-ce que l'on aura des comptes à rendre à l'Europe si, dans le nouveau plan, on écarte, je ne sais pas pour quelle raison, la mission première qui avait été demandée, pour laquelle on a demandé de l'argent à l'Europe, pour faire un établissement structurant pour le développement du tourisme pêche. Ça, c'est ma première question. La deuxième question, c'est que j'ai lu avec beaucoup d'intérêt des COGEPOMI voisins, qui ont été plus en avance que nous. En France, il y a 36 rivières à saumon sur lesquelles on pêche. Sur 75% de ces rivières, il se prend moins de 50 saumons à la ligne. Sur 45% de ces rivières, il se prend moins de 10 saumons à la ligne. Et l'on a, dans les Cogipomies voisins, des rivières sur lesquelles on fait des opérations de soutien des effectifs et sur lesquelles on ouvre la pêche. Alors je ne comprends pas, en termes de cohérence des politiques publiques, comment, si on fait des soutiens d'effectifs, je suppose que c'est qu'on n'a pas atteint le seuil de conservation. Et si on n'a pas atteint le seuil de conservation, comment peut-on ouvrir la pêche? Donc, quelle est la cohérence globale entre les Cogipomies, parce que je pense qu'on n'invente pas un document, même si l'État ne fait que révéler la demande locale, il faut quand même qu'on ait une certaine cohérence entre les bassins. Donc voilà mes deux questions.
Est-ce qu'on apporte une réponse tout de suite ou on prend d'autres questions? Ou est-ce qu'il n'y a pas de réponse? On continue? Allez, je continue. On se donne globalement, hein, entre les quelques conclusions, avec votre permission, jusqu'à 5h30. Si, une réponse par M. Berne? Allez.
Mon sentiment... Quand...
Oui, allez-y, mais oui. Vous n'allez pas répondre à monsieur, si, à Patrick Martin? Si?
Non, non, je vais répondre.
Alors, je préférerais donner tout de suite le micro à Monsieur Berne qui répond à cette question. Enfin, il répond pas, mais il apporte une réponse. Puis je vous le redonne, hein, parole.
Je voudrais rectifier une chose qui vient d'être dit, parce que je viens justement de territoires où il y a le saumon est autorisé, il y a des tacs, etc. Donc les chiffres qui sont sortis, excusez-moi, sont des chiffres assez bidons. Parce que les tacs ne représentent pas la réalité. Quand vous partez le matin à la pêche avec un bracelet dans votre poche, et que vous prenez le saumon quasiment tout de suite, vous êtes vraiment très tenté de dire « je vais peut-être le mettre au deuxième ou au troisième que je prendrai ». Donc en fait, il y a une chose qu'il ne faut pas oublier dans vos discussions, moi je ne veux pas intervenir, c'est le problème des Nigériens, ce n'est pas mon problème. Il y a deux choses qu'il ne faut pas oublier, c'est que un, il y a de l'échappement. Quand une pêche est interdite, elle est interdite. C'est-à-dire celui qui ramène un saumon, c'est un braconnier. Si c'est ouvert, et ben ensuite, voilà, il va y avoir du blanchiment, si je peux dire, hein, vous voyez ce que je veux dire ? Hein, comme il y avait eu certaines périodes avec d'autres opérations. Donc faites attention à ça. Et chez nous, quand pour un saumon déclaré, il y en a peut-être 5 ou 6 qui sont pris. Et puis la truite de mer à déclaration non obligatoire, je pense que je suis l'un des rares pêcheurs de truite de mer qui envoie le truc au CSP à Rennes, c'est plus le CSP maintenant, avec on prend la petite écaille, on la met dans l'enveloppe. Il n'y en a pas beaucoup qui font ça. Et il s'en prend des pagaires, la scène n'est pas sous tac. Je voulais aussi vous rappeler un truc, hein. Je pense que vous n'ignorez pas, c'est que la Loire, c'est jusqu'à, peut-être, je crois, enfin, jusqu'à Chantage en tout cas, c'est domaine public fluvial. À partir du moment où la pêche est ouverte sur le domaine public fluvial, elle est ouverte à tous. C'est que n'importe qui en France qui est membre d'une APPMA, et puis il ira sur Internet, avec la carte électronique, on fait tous comme ça, on va chercher l'APP la moins chère, hein. Il ira sur l'APP la moins chère, donc je ne sais pas où, à Trifouilly, et il aura le droit de venir pêcher sur le domaine public de Loire, et donc à prendre des saumons. Voilà, donc faites gaffe. Hein.
Ok, redonnez le micro, s'il vous plaît, monsieur.
Oui, mon sentiment sur la réouverture potentielle de la pêche sportive, contrôlée, surveillée de la pêche au saumon sur l'Allier. Mon sentiment. Je pêche le saumon depuis l'âge de 16 ans à Brioude. Je le pêche actuellement à l'étranger. Je rentre de Norvège, où j'ai vu de belles rivières. Vous dire que vous allez ouvrir la pêche au saumon et que plus tard, et que l'ouverture est une étoile lointaine, vous vous trompez. Je me permets de vous dire que vous vous trompez et vous allez être directeur du parc. Bon, premièrement. Deuxièmement, j'aimerais savoir... s'il existe une pyramide des âges des pêcheurs de saumon à l'heure actuelle. Il faudrait faire une étude là-dessus. Quel âge moyen ont les pêcheurs de saumon auvergnats, français? Et si la pêche ne se réouvrit pas, monsieur? Je pense qu'il y a beaucoup d'adultes, dont moi-même qui a 70 ans, nous ne pourrons pas avoir de jeunes pêcheurs sur la rivière. Il faut penser à nos enfants, à nos petits-enfants, qui sont des pêcheurs potentiels. Si vous laissez la pêche fermée, si vous l'ouvrez un jour, il faut l'ouvrir en urgence, en pensant à nos enfants. Sans cela, nous ne parlerons plus du saumon dans 10 ou 15 ans. Croyez-moi.
Allez, la toute dernière. Allez, peut-être, j'ai au moins deux levés, trois. Qui n'a pas pris la parole, à qui je ne l'ai pas donné? Parce que là, on a déjà entendu ces messieurs. Bon, allez, allez-y. Mais j'ai pas de femme.
Comme ce Gladel, pour conforter, d'abord, je suis agréablement surpris qu'on parle, on va pas dire unanimement, de retour à la pêche sportive, à la réouverture de la pêche du saumon. Je m'attendais jamais à ça. Je me sentais vraiment un peu seul à avoir des projets comme tels, comme j'ai formulé au mois de mai. Ça circule sur Internet. Dans une pêche récréative, dans le seul souci de préservation des saumons, et avec remise à l'eau, bien entendu, obligatoire. Alors là, je m'interroge, parce qu'en France, vous avez le Gave d'Oloron qui est ouvert, où il n'y a pas plus de saumons que dans l'Allier, voire moins. Les gens, aujourd'hui, chaque saumon pris à la ligne est irrémédiablement tué et sacrifié. En Normandie, je ne sais pas, mais en Bretagne, j'ai des clients qui viennent à la pêche en Écosse avec moi sur l'aspect, me disent la même chose que ce qui se passe sur le Gave d'Oloron. Alors pourquoi continuer à fermer la pêche donc depuis 20 ans, voire 26 ans dans le futur, alors qu'il n'y a pas plus de saumon dans les autres rivières, voire moins, et c'est autorisé non seulement de les pêcher, mais de les tuer.
Voilà, ben, ça va être l'avis qui conclut pour le moment, hein, puisque effectivement, on va donner la parole à Isabelle Autissier, peut-être, hein, maintenant. Je suis invité. Vous voulez répondre? Oui. Eh bien, alors, il faut y aller.
J'ai eu deux questions, donc je trouve normal d'y répondre.
Oui, oui, logique.
La pisciculture chanteuse financée en partie par l'Europe au titre d'un établissement structurant pour le tourisme pêche. Je pense que, pour moi, notre objectif reste clairement la réouverture de la pêche. Nous étions dans une phase qui s'avère plus compliquée que prévu, parce qu'on avait aussi des projets d'amélioration d'habitat qui ont mis plus longtemps à se réaliser qu'on ne l'espérait. Je rappelle que quand le barrage de Saint-Étienne-du-Vigan a sauté, on s'est dit ça va aller vite pour la suite. Ça a été un peu plus lentement qu'on ne le souhaitait. Donc moi, je n'ai aucune inquiétude en ce qui concerne un retour quelques années plus tard de l'Europe, parce que on est bien dans l'optique à terme d'avoir une population naturelle suffisante, viable, qui permettent de la pêche. La cohérence des cosépomi, j'ai tendance à dire, il y a tant de cosépomi que ça qui traitent un cours d'eau qui fait 900 km de long. La question n'est pas innocente. On a quatre autres populations qui sont plus ou moins peu différenciées à l'échelle de la France. Il y en a une cinquième qui est vraiment éloignée de toutes. C'est pour ça qu'on lui fait un traitement spécifique. C'est pas que ça m'enchante. Maintenant, m'expliquer aussi que dès qu'on va rouvrir la pêche, tout va aller pour le mieux, dans le meilleur des mondes possibles. Alors là, je veux bien, on se fait dans un monde parallèle, mais je vous garantis que dans 3 ans, on viendra me dire que c'est un scandale, parce qu'il y a un braconnage absolument monumental. Si c'est ça que vous voulez, vous me le dites. J'appelle un chat, moi aussi.
Moi, je peux parler là.
Un mot par monsieur Issac. Oui, allez-y. Hein.
Oui, ce que dit monsieur le directeur, que j'entends tout de suite là, je voudrais intervenir là-dessus. Tout à l'heure, j'ai dit dans mon propos que s'il y avait des comptes financiers à rendre, il serait peut-être ce serait des comptes publics. Parce que un projet qui ne va pas au bout de sa logique. Ça veut dire que si on ne soutient pas par la salmoniculture de Chanteuge, il faut être clair, les effectifs jusqu'à ce qu'ils soient suffisants pour que le naturel reprenne le dessus, nous aurons échoué. Et si nous avons échoué, il faudra bien rendre des comptes sur tout l'argent qu'on a mis, il y en a eu de l'argent, sur cette salmoniculture et le problème de la restauration du saumon. Ce sera peut-être des comptes publics ou pas publics, enfin administratifs, mais par rapport au public, nous avons un devoir. Je le dis en tant qu'élu, en tant que citoyen et en tant que contribuable, c'est de réussir le coup. Donc quand on nous dit on va réduire les effectifs sur Chanteuge parce que le naturel va reprendre, permettez-moi d'en douter, et d'en douter très fort. Moi aussi j'ai mon caractère.